Et l'invité du grand entretien du 7-9 ce matin est professeur à Sciences Po, membre du collège des garants du grand débat. Ils sont 5, ils ont pour fonction de garantir l'indépendance de cette consultation inédite sous cette forme en France. Ils ont été nommés par le gouvernement, pour certains, et par les présidents des assemblées, pour les autres. Bonjour Pascal Perrineau.
Bonjour.
Vous, c'est Gérard Larcher, le président du Sénat, qui vous a nommé il y a une bonne quinzaine de jours. En quelques mots, juste pour commencer, expliquez-nous en quoi consiste cette fonction et à quoi ressemble une journée de garant du grand débat.
Alors, d'abord, à quoi ça sert, ce collège des garants? Ça sert à observer, d'abord dans un premier temps, la manière dont ce grand débat, qui est une innovation institutionnelle radicale, jamais la France n'a connu cela, ni même un autre pays européen, ni même un autre pays du monde, une consultation de ce type. Donc ça cherche à observer la manière dont, pas le débat d'ailleurs, les débats, parce qu'il y en a de multiples, les retours également de contributions que les citoyens, là on n'est pas du tout dans une situation de débat, tel ou tel citoyen peut prendre sa plume, écrire ce qu'il pense de tel ou tel sujet et le faire remonter.
Mais alors vous êtes scrutateur, observateur, vous êtes quoi?
On observe d'abord dans un premier temps et par exemple nous sommes régulièrement presque chaque jour sur le terrain dans ces réunions d'initiative locale puisque c'est le terme consacré, donc dans les débats locaux. Il y en a pour l'instant sur le site 2700 sur le territoire national et on ira plutôt vers les 5000, 6000, peut-être 7000
réunions. C'est ça la projection que vous
avez? Bien sûr, bien sûr. Oui, je crois. On devrait arriver à cela puisque vous savez que le grand débat a commencé le 15 janvier et qu'il se termine le 15 mars.
Donc ça monte encore en puissance.
Ça monte plutôt en puissance. Mais attention, tel ou tel événement peut très bien inverser ce processus qu'on pourrait appeler presque processus vertueux. Donc c'est l'observation. Ensuite, nous interrogeons la mission du Grand Débat National. Alors, qu'est-ce que c'est que la mission du Grand Débat National? C'est l'administration qui s'occupe de gérer ce Grand Débat National, le grand site qui a été ouvert et qui a fait l'objet, c'était les chiffres d'il y a deux jours, de plus d'un million de visites directes, déjà, donc vous voyez, et de plus, aujourd'hui, de 500 000 contributions. Donc vous voyez, on est dans des dimensions tout de même tout à fait importantes.
Les débats que vous avez vus, d'un mot, Pascal Perrineau, vous dites on est sur le terrain toute la journée, ressemblait à quoi? Comment avez-vous senti ces moments de prise de parole?
Alors d'abord, comme ça, quelques impressions, quelques sentiments. Il y a une présence dans ces, souvent, les salles de mairie. Ce sont les maires qui, à la base, très souvent, donnent des espaces. Je dirais, comme ça, au doigt mouillé, 60% des débats. Ce sont les maires qui donnent des espaces. Ça ne veut pas dire que les maires sont là. Les maires savent s'échapper du processus, afin de ne pas l'influencer. Ensuite, on a des citoyens, j'allais dire, des citoyens de base du pays. Parfois, assez souvent, et c'est même peut-être émouvant, des gens dont on sent qu'ils n'avaient jusqu'alors pas pris la parole et que dans cet espace, ils se mettent à prendre la parole. Ça, c'est, vous savez, déjà dans la manif des Gilets jaunes, dans les manifs des Gilets jaunes, on disait beaucoup, il y a beaucoup de primo-manifestants. Là, je dirais presque qu'il y a pas mal de primo-parlants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas uniquement les professionnels de la parole. Ils ont le droit aussi au chapitre. Ils sont là, d'ailleurs, parfois. Les représentants d'associations, de syndicats, etc. Il y a aussi le citoyen de base qui prend la parole, parle de ses interrogations et rentre parfois dans un processus même de proposition. Ça n'est pas simplement le vecteur d'expressions diverses et variées sur la transition écologique, sur la fiscalité, sur l'organisation des services publics. C'est également un stade où on commence à élaborer en groupe des propositions. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument favoriser.
Une dernière question très très factuelle. Comment se répartissent les contributions? Vous avez cité les 500 000 contributions qui ont été envoyées par les citoyens. Le gouvernement disait 300 000 réponses aux questions posées par l'exécutif et 200 000 réponses sur papier libre, en quelque sorte.
Alors, En effet, il faut bien que...
Ce sont des gens qui, les 200 000, refusent les cadres du débat tels qu'ils ont été définis.
Non, pas forcément, mais ils se sentent plus à l'aise dans le questionnement ouvert, puisque vous savez qu'il y a 4 grands thèmes proposés à la discussion, la transition écologique, l'organisation de l'État et des services publics, la fiscalité et la question, au fond, de la démocratie. Et sur ces 4 questions, la mission du grand débat a sélectionné toute une série de questions fermées. Très bien. Le Collège des Garants, d'ailleurs, a fait des remarques sur ces questions fermées en disant, au fond, bon, pourquoi pas, mais commençons plutôt le questionnement par les questions ouvertes. Il s'agit d'organiser un débat plus qu'une consultation. Mais enfin, on voit bien, il y a un côté hétérogène. Il y a à la fois les gens qui, en effet, vont s'exprimer à leur manière sur ces thèmes. Et c'est très bien. C'est ça, un débat démocratique. Et puis, il y a ceux, mais on peut faire les deux, qui préfèrent répondre, parce que ça les rassure peut-être, répondre aux questions fermées qui sont inspirées indirectement du questionnement que le président de la République avait initié dans sa lettre. Vous savez, les fameuses 34 questions.
Alors, monsieur le garant de l'indépendance, comment faire croire à l'indépendance d'un débat voulu par l'exécutif, mis en œuvre par l'exécutif, avec des questions posées par l'exécutif, piloté par 2 membres du gouvernement? Expliquez-nous l'équation, je vois pas comment, ni on la pose, ni on la résout.
Vous savez, ça ne vous a certainement pas échappé, ce débat est initié par le pouvoir exécutif, un peu sous la contrainte. Sous la contrainte de ce qu'on pourrait appeler un mouvement social, une grogne qui avait 2 visages, le mouvement tel qu'il se passait dans la rue et tel qu'il continue d'ailleurs d'une certaine manière, et puis cette protestation d'opinion qui est très sensible dans les enquêtes d'opinion, qui montre qu'encore aujourd'hui une partie importante des Français considère en effet que voilà, ce mouvement des Gilets jaunes a une certaine légitimité.
Bon, le grand débat alors.
Alors ensuite, ce grand débat, il a été, en effet, il est organisé par l'État. Le gouvernement, c'est l'État qui organise. On peut espérer que l'État ait une certaine indépendance par rapport aux forces de la majorité et au gouvernement.
On peut l'imaginer.
On peut l'imaginer. Et le gouvernement, est à la manœuvre, bien sûr. Il y a 2 ministres, Sébastien Lecornu et Emmanuel Wargon, qui ont en charge l'organisation matérielle, j'allais dire, de cette affaire. Mais attention, la prise de parole des Français est libre. Je vous assure, pour avoir regardé attentivement les cahiers de doléances, qui d'ailleurs avaient commencé avant le 15 janvier, et qui maintenant vont être systématiquement transformés en données dans les préfectures sous contrôle d'huissier. Nous avons demandé, nous au Collège des Garants, à ce que tout remonte, absolument tout, pas simplement les réponses aux questions du gouvernement. Pas du tout.
Donc vous pensez que la masse des contributions, au fond, garantit l'indépendance de la chose?
Alors attention, la masse des contributions, bien sûr, garantit la diversité, le pluralisme de l'expression des citoyens. Et puis ensuite, bien sûr, nous serons très attentifs parce que cette masse, elle va être... A priori, au premier abord, elle est difficilement lisible. Donc, il va falloir opérer des processus de restitution. Ça va se faire fin février, début mars. Et donc là, à ce moment-là, il faut être extrêmement attentif, et nous serons attentifs aux conditions dans lesquelles fait l'analyse de ce matériel et la restitution.
Est-ce que vous savez déjà, est-ce que vous avez la moindre idée, Pascal Perrineau, de la manière précisément dont l'ensemble des contributions et des comptes rendus de débat seront restitués? Travailler.
Alors,
vous l'avez dit, c'est inédit. Oui, alors, est-ce qu'on sait faire déjà?
C'est vrai, il y a un côté innovation institutionnelle et ça s'invente presque tous les jours. Et nous sommes un des acteurs parmi d'autres qui interpelle, rencontre cette mission du grand débat, pose des questions qui sont parfois des questions assez techniques.
Et comment vous allez faire pour mouliner tout ça?
Il y a un premier niveau, d'agrégation de toutes ces données. Sur le site, dans les communes de France, dans les 36 000 communes de France, il y a un premier niveau d'agrégation qui se fera au niveau régional. Il y aura 17 conférences citoyennes régionales qui seront organisées dans les régions, plus une conférence, et ça c'est très important, une conférence qui sera dédiée aux citoyens jeunes. Parce qu'on s'aperçoit en effet dans les débats, et moi c'est une expérience tout à fait concrète que j'ai tous les jours, que à peu près tout le monde est là, mais il y a très peu de jeunes. Et il faudra pour tous ces citoyens, j'allais dire entre 16 et 24 ans, il faudra un moment qu'ils soient consultés. Donc il y aura une conférence citoyenne jeune qui sera organisée à partir d'un échantillon tiré au hasard de jeunes Français. Donc là, il y aura un premier niveau d'agrégation, région par région. Et puis ensuite, et là, c'est le travail est en train de se faire. Il y aura différents spécialistes de traitement de données extrêmement lourdes qui seront audités. On verra ce qu'ils proposent pour traiter ces millions de données. Mais vous savez,
donc les ordinateurs auront la main.
Alors l'intelligence humaine. Hein, et puis une intelligence artificielle. En effet, voilà, artificielle.
Comment les citoyens que vous croisez dans ces débats réagissent quand vous leur dites que leurs prises de parole, leurs écrits seront lus par une intelligence artificielle et alors, non pas par un être humain?
Alors, attendez, ça suscite un énorme scepticisme parce qu'on sait
et
très bien.
Et de la colère ou pas?
Du scepticisme, je dirais, une certaine méfiance. Vous savez, si cette procédure de grand débat a été lancée, c'est parce qu'on est dans un pays dans lequel il y a une défiance démocratique littéralement gigantesque. Il faut faire avec cette défiance. Cette défiance doit nous dire quelque chose. Et bien sûr, la défiance n'a pas disparu parce que le grand débat a commencé. Je ne céderai jamais à cette naïveté. Donc, il y a, oui, dans le débat, beaucoup de défiance qui s'exprime, et même de défiance par rapport à, d'accord, vous êtes bien sympathique, vous êtes là, vous nous écoutez, vous cherchez à garantir le pluralisme, la transparence du débat, mais qu'est-ce qu'on fera de notre parole? Et c'est légitime. Alors, il y a différents instruments, on ne part pas de rien. Il y a des instruments, par exemple, de lexicométrie, où on peut compter les mots, voir les thèmes qui apparaissent, les thèmes dominants, les thèmes annexes, voir dans quel contexte ces thèmes apparaissent. Donc, tout ce type de technique sera mobilisé pour interpréter et donner à la fin des fins, c'est-à-dire le 15 mars, aux décideurs, à ceux qui vont décider, c'est-à-dire au président de la République, au Premier ministre, au gouvernement, au Parlement et aussi aux collectivités locales. Parce que ça, pour l'instant, moi je le sens très bien sur le terrain. Beaucoup de revendications des Français s'adressent aussi aux collectivités locales et pas simplement au pouvoir central.
L'alambic entre les contributions, leur synthèse et la décision finale de l'exécutif, voire du président de la République lui-même et tout seul, ça reste mystérieux. Alors, aussi, Pascal Perrineau.
Alors, le grand débat doit aboutir au fond à une cartographie claire des grands thèmes qui auront été dans la tête de tous les Français qui se seront mobilisés dans cet exercice. Ensuite, cette cartographie, elle est mise à la disposition de celles et ceux qui vont décider, faire la loi, prendre des décrets, prendre des décisions, agir dans les collectivités locales, au plan régional, au plan national. Nous ne serons plus dans le cursus. Mais nous pouvons avoir des idées. Par exemple, nous pouvons avoir l'idée que ce processus de démocratie citoyenne, une fois qu'il aura donné un débouché clair dont s'empareront les décideurs, eh bien que ce processus pourrait, par exemple, continuer.
On va au standard de France Inter. Énormément de questions ce matin. Commençons tout de suite avec vous, Arnaud. Bonjour.
Oui, bonjour.
Bienvenue, on vous écoute.
Alors ma question, j'étais au grand débat hier soir à Vincennes, dans ma circonscription, et j'ai été très très surpris, je me suis proposé comme étant médiateur, très surpris lors de la préparation de la soirée, on était un petit groupe de 10, je me suis rendu compte que tout le monde se tutoyait autour de moi, et que en fait tous les autres médiateurs étaient de La République En Marche. J'étais le seul gilet jaune, mon député m'avait bien accepté en tant que gilet jaune, je n'avais pas sur moi. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, vous connaissez tous, pourquoi c'est La République En Marche qui fait aussi la médiation? Alors déjà, on avait les papiers de M. Macron entre les mains, où quand même les questions sont très cadrées, mais en plus, pour animer le débat, ce ne sont que des militants ou ex-militants de La République En Marche.
Arnaud, permettez-moi une petite question à ce stade. Est-ce que ces militants étaient là à visage découvert, en quelque sorte, ou vous aviez l'impression de participer à un débat truqué?
Non, ils étaient à visage découvert. c'était très convivial. Il n'y avait pas de... Voilà. Est-ce que tous les participants savaient qu'ils étaient, eux, militants? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ils ne s'en cachaient pas. Non, il n'y avait pas de...
Merci. Merci beaucoup, Arnaud. Pascal Perrineau.
Alors, là, en effet, au fond, la question de l'auditeur pose la question du pluralisme. Alors, il peut y avoir le pluralisme à l'intérieur d'un grand débat, quand plusieurs acteurs, La République En Marche, les Gilets jaunes, j'étais là tout à fait récemment dans l'Essonne, dans un débat, plutôt en milieu rural, eh bien, il y avait trois Gilets jaunes, et à quelques tables plus loin, il y avait des écologistes dont on sentait bien que certains étaient des militants, et puis il y avait des citoyens lambda. Il y avait un pluralisme, j'allais dire, à l'intérieur de la RIL, comme on dit, de la réunion d'initiative locale. Et puis, en effet, et là, il faut regarder, tout ça est annoncé, les 2700 réunions, c'est annoncé sur le site. On a toujours, parce que c'est fait systématiquement, l'organisation qui a pris l'initiative du débat. Et bien sûr,
ou la personne.
Si, ou la personne. Et bien sûr, si c'est, si je comprends bien à Vincennes, un député de La République En Marche qui a pris l'initiative, il est inévitable, en effet, qu'il y ait une surreprésentation
des militants.
Voilà, de militants de La République En Marche. Mais pour rassurer votre auditeur, il ne s'agit pas simplement de répondre aux questions. Bien sûr, si il a envie de répondre de manière tout à fait ouverte sur le site au thème qui le préoccupe, il peut le faire dès maintenant.
Pierre-Marie est en ligne. Bonjour Pierre-Marie, bienvenue sur Inter.
Oui, bonjour. Ma question est la suivante, à savoir, est-ce que le langage ne va pas être le même entre les revendications et les thèmes posés par les Gilets jaunes ou par les participants au débat et les réponses à apporter aux problématiques posées, qui sont quand même complexes? On est dans une économie mondialisée avec des problématiques européennes et mondiales sur tout un tas de sujets. Et est-ce qu'il ne va pas y avoir un problème de différentes langues parlées qui ne va pas être la même du point de vue des experts et du point de vue du public en présence?
Merci Pierre-Marie. Pascal Perrineau.
C'est une vraie question. C'est une vraie question. Les gens s'expriment et les citoyens s'expriment avec leurs mots, à leur manière, qui parfois, oui, peut être éloignée de la langue, pour reprendre le terme utilisé, et du vocabulaire des décideurs. Mais pour l'instant, restons dans le premier moment. Les Français s'expriment comme ils ont envie de s'exprimer. Et puis, ils vont définir les thèmes, ce qu'ils ont en tête, les préoccupations qu'ils ont en tête, et ébaucher, comme ils le font à la base, moi dans plusieurs réunions d'initiatives locales, ça me frappe, commencer à ébaucher des solutions. Et puis tout sera, ça sera un livrable à qui ? À ceux qui, à partir du mois d'avril, eh bien, devront apporter des réponses.
Carmen est en ligne, bienvenue.
Oui, bonjour Monsieur Demorand.
Bonjour madame.
Toujours heureuse du service public.
C'est gentil, on vous écoute.
Voilà, moi je suis très choquée, je voulais savoir si c'était normal que des membres du gouvernement et jusqu'au président lui-même s'invitent comme ça dans nos débats, sans prévenir. Ils n'ont pas assez de pouvoir, pas assez de tribune qui viennent phagocyter nos débats et venir nous donner des leçons sur ce qu'il faut dire et ce qu'il faut penser.
Vous l'avez vécu, Carmen, comme si on vous privait, au fond, d'un moment qui est le vôtre?
Oh ben non, moi je l'ai vécu comme une mascarade où des gens viennent faire la promotion de leur politique, voire même une campagne électorale en cours.
Merci Carmen. Pascal Perrineau vous répond où l'on retrouve la question de l'indépendance, une fois encore.
Alors cette auditrice pose une question tout à fait importante qui est la nécessaire distinction entre le débat et le débat démocratique et ce qui relève de la communication. Il y aurait un détournement du débat si l'essentiel des débats servait à mettre en œuvre ou devenait le vecteur d'opérations de communication. La question de votre idée, c'est une question que je me suis posée. J'ai été voir, en effet, si les événements auxquels ont participé des hommes et des femmes du pouvoir étaient inscrits sur le site du Grand Débat National parmi les 2700 réunions dont je parlais tout à l'heure. Eh bien, non. Donc, on voit bien que c'est un peu une autre affaire. Et bien sûr, ça poserait problème si dans les 2700, il y avait, je ne sais pas, moi, mettons même ne serait-ce que le quart de ces réunions qui devenaient des opérations de communication. Là, le Collège des Garants, en effet, doit être attentif à cet équilibre.
Alexandre est en ligne. Bienvenue, Alexandre.
Bonjour.
On vous écoute.
Alors moi, je vais vous poser une question simple, liée à la transparence, puisqu'il paraît que c'est transparent. Je suis gilet jaune et je veux organiser, enfin j'en organise déjà, des réunions en essayant de faire en sorte que les gilets jaunes y participent. Mmh. Alors, ma question, elle est simple. Est-ce que M. Perrineau sait que les synthèses des réunions d'initiative locale ne sont pas accessibles sur le site? Voilà, on peut les remplir, on peut les faire, on peut les envoyer, mais elles disparaissent dans l'inconnu, on ne peut pas les lire. Il n'est impossible de lire la moindre synthèse de réunion sur les sites, elles n'apparaissent pas.
Merci Alexandre pour cette question. Pascal Perrineau vous répond.
Tout ça, c'est un problème purement de temps. D'abord, ces synthèses, il y a synthèse et synthèse. Très souvent, ces synthèses de réunions d'initiative locale, quand il y a un médiateur qui fait la synthèse, certains médiateurs les renvoient aux participants au débat afin que la synthèse fasse l'objet d'un accord. Donc vous voyez, déjà, quand on est 60 dans une réunion d'initiative locale,
il y a des navettes.
Donc ça demande un certain temps. Ensuite, ces synthèses vont remonter. Ils vont remonter, elles vont être saisies.
Mais elles vont être en ligne pour
nous
tout
avons,
le monde.
Nous avons demandé.
C'est ce que demande notre auditeur.
Mais nous, vous savez, nous ne sommes pas opérationnels, nous ne sommes pas décideurs. Hein. Nous donnons des conseils, des recommandations et des avis. Nous avons demandé à ce que, à la fin du processus, tout soit en, comme on appelle aujourd'hui, en données ouvertes, en open data. C'est-à-dire que tout soit consultable sur le site. Alors, c'est en effet une demande qui est énorme parce que, voilà, il va falloir un site capable d'accueillir tout cela. Et donc, je ne sais pas si ça peut rassurer notre interlocuteur gilet jaune, mais la synthèse à laquelle il a contribué sera, elle n'est pas aujourd'hui. Oui, attendez, on peut pas, ça se fait pas dans la minute qui suit le débat.
Mais sera
consultable.
Merci Pascal Perrineau, merci monsieur le membre du Collège des Garants d'avoir débattu avec les auditeurs de France Inter. Je le redis, ils étaient très nombreux, 1000 questions sur l'application que je n'ai pas pu vous répercuter.